Avant de commencer, je vous propose de dire ensemble la prière. Le premier jour, on la reprendra à la fin. Et je vous propose de dire cette prière du premier jour de la neuvaine qui va introduire un peu ce qu'on veut faire et ce qu'on veut dire. Notre-Dame du Travail, je vous offre et vous consacre mes tâches quotidiennes et celles de tous les hommes. Par votre oui, vous avez accueilli en vous, sans réserve, celui qui est la vie. Cause de notre joie, je vous offre la joie des femmes qui portent la vie. Soutenez les mamans qui sont dans le travail de l'enfantement. Accompagnez avec tendresse celles qui vivent l'attente dans l'anxiété. Soyez l'espérance de celles qui hésitent à garder la vie fragile qui leur est confiée. Consolez et encouragez celles à qui la vie semble se refuser. Donnez force et courage à ceux qui se consacrent au service de la vie, de son commencement à son terme naturel. Une introduction générale d'abord à ce cycle de conférences et à ce qu'on essaye de faire ici. Je pense que vous avez compris, mais je le reprends quand même pour le creuser même pour moi-même. Depuis que je suis arrivé ici comme curé, il y a presque 10 ans maintenant, j'ai eu le... D'abord, ça m'a impressionné d'être curé d'une paroisse qui s'appelle Notre-Dame du Travail. Et depuis le premier jour, je me suis dit... une paroisse qui s'appelle Notre-Dame du Travail, c'est pas Sainte-Brigitte ou Saint-Bruno, c'est un titre, c'est un vocable qui dit quelque chose et qui est comme une espèce de mission, c'est-à-dire s'appeler paroisse Notre-Dame du Travail. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était quelque chose comme une intuition pour le fondateur de la paroisse. Le fondateur de la paroisse, l'abbé Soulange Bodin, qui est derrière moi là, voulait que les travailleurs puissent venir prier dans le sanctuaire de la Vierge du Travail. C'était son intuition forte. Il voulait un lieu où les travailleurs, c'est-à-dire tout le monde du travail, puissent venir prier et découvrir un chemin de sanctification dans le travail. Mais un chemin pas n'importe lequel, un chemin marial, un chemin à travers le regard de la Vierge Marie. Et j'ai toujours été impressionné, depuis que je suis arrivé dans cette église la première fois, par les deux fresques qui sont autour de la Vierge dans le cœur. À gauche, vous voyez ces deux fresques. À gauche, toutes les personnes qui viennent offrir leur travail, qui viennent offrir et déposer au pied de la Vierge Marie le fruit de leur travail, de tous les travaux qui sont représentés symboliquement par différents métiers. Et puis de l'autre... À droite, toutes les personnes, les indigents, les pauvres, les chômeurs, tous ceux qui n'ont pas de travail à offrir, mais qui viennent offrir leur prière, qui viennent offrir leur indigence, qui viennent offrir leurs difficultés, qui viennent offrir leurs souffrances. Et au cœur, au centre, Notre-Dame du Travail, qui accueille, elle regarde son enfant, elle est assise, l'enfant Jésus qui a à peu près 12 ans est à côté d'elle. Elle regarde son fils et lui regarde le monde. Il regarde le monde. Et du coup, depuis le commencement, depuis le premier jour, je me suis dit, qu'est-ce que Notre-Dame du Travail a à nous dire sur le travail? Elle a quelque chose à nous dire qui n'est pas la même chose que ce que nous dit Saint Joseph. Elle a quelque chose à nous dire quant à l'offrande du travail. Elle a quelque chose à nous dire quant à la disponibilité de son cœur, de son corps, de tout son être. Elle a quelque chose à nous dire en tant qu'elle est mère, en tant qu'elle est épouse, vierge et mère, en tant qu'elle est tout simplement tout entière tournée vers Dieu. Et en réfléchissant sur cette question de Notre-Dame du Travail, au tout début, j'ai eu l'intuition forte qui s'est imposée que le premier travail de la femme, c'est l'enfantement. Et j'avais présent, et je vais le reprendre tout de suite avec vous, j'avais présent très fortement cette vision de l'Apocalypse, au chapitre 12, de la femme qui crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Elle est enceinte et crie dans les douleurs le travail de l'enfantement. Qu'est-ce que représente ce travail de l'enfantement? C'est pour ça que ça me paraissait tellement important, tellement central, tellement primordial au sens fort, que j'ai pensé que c'était une introduction dans tout le reste, une introduction dans la neuvaine, du coup, mais une introduction dans la spiritualité mariale du travail, dans l'école du travail tel que la Vierge Marie nous le propose. Alors je voudrais ce soir avec vous, assez simplement, hein, puis je me lance dans l'aventure, vous savez, c'est quelque chose qui est en enfantement, qui est en travail, qui est en gestation, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout fini, qui n'est pas du tout achevé pour moi, même dans mon esprit, c'est quelque chose qui est l'objet de ma quête, de ma recherche un peu tout le temps, mais je n'ai pas du tout la prétention de vous proposer ce soir quelque chose de fini, d'achevé. Je vous propose un peu je vous introduis dans mon atelier, je vous introduis dans mon chantier. Et puis, c'est ensemble, après, au fur et à mesure, qu'on va essayer de creuser, de découvrir un peu plus, à chaque fois, ce que la Vierge Marie nous propose. Alors, je voudrais porter plusieurs regards. D'abord, le regard sur Marie elle-même, bien sûr, dans son enfantement, dans son travail d'enfantement. Et d'abord, dans le côté joyeux, profondément joyeux de l'enfantement de Marie. J'aime vous savez, c'est très traditionnel dans la spiritualité mariale, les sept joies de Marie, les sept allégresses de Marie, et puis en parallèle et à côté, les sept douleurs de Marie. Essayez de comprendre, d'abord de porter un regard sur Marie, Vierge et Mère. Essayez de voir ce qui est joyeux dans l'enfantement chez Marie et ce qui est douloureux aussi en elle, ce qui est comme une souffrance, et même une souffrance crucifiante. Pour ensuite, deuxièmement, porter un regard sur la femme en général, la femme moderne, la femme d'aujourd'hui et de toujours, la femme dans le travail de l'enfantement. En quoi consiste ce travail de l'enfantement? Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce qui caractérise ce travail de l'enfantement à travers les différentes étapes qu'on peut regarder ensemble? Et là aussi, dans des aspects joyeux et des aspects douloureux. Et pour finir, un regard sur le travail lui-même, parce que je pense, je vous invite à y réfléchir avec moi, j'essaierai d'ouvrir quelques portes, mais sans prétendre achever du tout la réflexion. Je voudrais que nous puissions réfléchir sur le fait que tout travail est en quelque sorte un travail d'enfantement. On peut en tout cas, on peut essayer de regarder le travail à travers les étapes de ce travail d'enfantement. Voilà, mais je voudrais essayer de creuser ça avec vous. Marie, par votre oui, vous avez accueilli en vous sans réserve celui qui est la vie. Tout commence à l'Annonciation. Tout commence dans ce jour extraordinaire de l'Annonciation. Il faudrait reprendre le texte dans l'Évangile de Saint-Luc. Je ne sais pas si je vais, mais je ne résiste pas. Je vais le lire avec vous quand même, parce qu'on le connaît par cœur, mais à chaque fois qu'on le lit, on découvre des choses nouvelles. Donc il ne faut jamais refuser de lire ce texte et de le lire lentement pour le mâcher. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la Vierge était Marie. Il entra chez elle et lui dit « Salut, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut bouleversée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Mais l'ange lui dit « Rassure-toi, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras et enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Il sera grand, on l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant sera saint et sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils en sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Je voudrais pas faire un commentaire théologique de l'Annonciation, je voudrais quand même regarder d'abord ce « oui » de Marie. L'Annonciation, c'est d'abord le « oui » de Marie. Ce « oui » de Marie, il est comme cette totale disponibilité à l'œuvre de Dieu. Il est cette totale offrande, il est cette totale... cette absolue offrande d'elle-même à Dieu et à son œuvre. Ça, c'est très, très impressionnant, Marie, parce que j'aime regarder ça comme ça. Marie est celle qui ne sait jamais regarder elle-même. C'est ce qui la caractérise. C'est ce qui caractérise sa virginité. Elle n'a jamais de regard sur elle-même. Marie est tout entière disponible à Dieu, elle est tout entière orientée vers Dieu, elle est tout entière à Dieu. Il y a dans l'Écriture une expression qui est dans l'Apocalypse, mais que saint Paul reprend d'une certaine manière, le Christ est l'Amen de Dieu. J'aime beaucoup cette expression. L'amen, amen en hébreu, c'est un mot intraduisible en français. Amen, c'est oui. Amen, c'est je veux. Amen, c'est j'adhère. Amen, c'est je crois. Amen, c'est je choisis. Amen. Le amen exprime cette adhésion à l'autre. Le Christ est l'amen de Dieu. Et je pense que Marie est amen de Dieu aussi. Elle est amen du Père. Très très beau ça. Le jour du mariage, je pose toujours la question au marié, est-ce que tu seras l'amen de ton épouse ? Et à l'épouse, est-ce que vous serez l'amen de votre époux ? Ce amen exprime, c'est plus fort que oui, c'est plus plein, c'est plus dense que le oui. Et parce que Marie est totalement disponible à l'œuvre de Dieu et qu'elle est tout entière remplie de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi ? C'est la parole d'amour. Parole de Dieu, Dieu est amour, la parole de Dieu, c'est la parole d'amour. Et la parole d'amour, c'est la parole par laquelle tout a été fait. Le Verbe de Dieu, tout ce qui a été fait par lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. La parole d'amour, c'est la parole qui fait exister. Très, très impressionnant, ça. On a toujours beaucoup, beaucoup saisi. La parole d'amour, c'est ce qui fait exister. Dieu qui travaille, Dieu qui crée, le travail de Dieu, c'est la création dont il va se reposer finalement le septième jour. Quand Dieu crée, il crée par sa parole d'amour. Dieu dit et cela existe. C'est beau, ça. Enfin, ça mérite d'être... Je suis obligé de passer vite, mais... La parole d'amour fait exister. Je raconte toujours que j'ai compris ça il y a quelques années quand, en serrant contre moi un garçon qui avait 18 ans à peu près, je le regarde en lui disant « je t'aime beaucoup ». Et il me dit « mon père, enfin j'existe pour quelqu'un ». Ça m'a beaucoup impressionné ça. La parole d'amour fait exister. Vous savez que dans une engueulade, par exemple, une scène de ménage, « de toute manière, je n'existe pas pour toi ». Oui, pourquoi je n'existe pas pour toi ? Parce qu'il n'y a plus de parole d'amour. Parole d'amour fait exister. Et Marie porte cette parole d'amour qu'elle médite dans son cœur jour et nuit. Et cette parole, elle la porte tellement en elle que la parole devient vie. La parole devient vivante en elle. La parole s'incarne en elle. Et la parole d'amour, c'est l'amour qui prend chair. C'est abyssal, ça. C'est une source, enfin, un lieu de contemplation qui, on peut y retourner sans cesse. C'est inépuisable. Et c'est la première joie de Marie, la joie, l'exultation. Mon âme exalte, le Seigneur exulte, mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme. Il faut reprendre tout son cantique d'action de grâce. C'est un espèce de feu d'artifice qui rassemble toute la parole de Dieu. Il y a comme une espèce de. Elle est pétrie de la parole de Dieu, de toute l'histoire d'Israël. Et tout s'accomplit en elle. Elle porte celui qui est la vie. Première joie de Marie, cette disponibilité de Marie, sa seule question c'est comment cela va-t-il se faire, mais non pas un comment de doute, vous voyez, comme Zacharie, comment ça va se faire puisque ma femme est vieille. Elle, c'est un comment d'adhésion. Et comment cela va-t-il se faire puisque je suis vieille, qu'est-ce que je dois faire? L'Esprit Saint viendra sur toi, c'est lui qui va faire. Alors je suis la servante du Seigneur, que tout soit fait comme en moi, comme tu as dit. Première grande joie de Marie, là. Et cette joie, elle la porte à travers les collines, comme ils sont beaux les pieds de celui qui annonce à travers les collines la bonne nouvelle, c'est le cantique d'Isaïe. Et Marie va porter cette joie à sa cousine Élisabeth, elle porte cette joie à celui que porte Élisabeth. Cette rencontre de la visitation, deuxième grande joie de Marie, les deux femmes qui sont toutes les deux dans ce travail d'enfantement, mais un enfantement qui est joyeux et presque exclusivement joyeux. Je dis presque parce que il y a en Marie déjà une angoisse qui pointe de la souffrance de Joseph qui sera terrible. Comment Joseph prendra-t-il la chose ? Comment Joseph réagira-t-il à ce qui advient en moi et dont je ne suis pas propriétaire, dont je suis, je suis comme prisonnière de ce qui advient en moi. Marie est comme prisonnière de ce secret qu'elle porte. On pourrait, je passe parce qu'il faut que j'avance, mais on pourrait rester très très longtemps sur cette réalité et la contempler. C'est une merveille. C'est vraiment quelque chose qui est Marie, qui est la fontaine scellée, comme dit les litanies de Lorette, les litanies de la Sainte Vierge, les titres qu'on lui donne, la demeure consacrée à Dieu. Elle est la maison d'or, la tour d'ivoire, la tour de David, trône de la sagesse. Tous ces titres qu'on donne à la Vierge Marie. Deuxième joie de Marie, ce partage de la joie, cet échange de joie, cet échange d'exultation avec Élisabeth, sa cousine. La troisième joie de Marie, c'est... Cette joie se poursuit à travers toute l'attente. Je voudrais contempler, et je pense que c'est très beau de le faire, et là aussi, c'est inépuisable, voir Marie dans son impatience et sa hâte, mais qui est une impatience patiente. Comment vous dire ça ? Elle est pressée et en même temps, elle attend l'heure de Dieu. C'est-à-dire, sa grossesse, son attente est une attente qui est avec de la hâte. C'est exprimé dans cette hâte qu'elle met dans la visitation, mais qui est au rythme de Dieu, c'est-à-dire qu'elle ne va pas plus vite que Dieu, elle est toujours au rythme de Dieu, pas à son rythme à elle. Il faudrait s'asseoir longuement. Si vous ne savez pas quoi faire la nuit devant l'adoration, asseyez-vous longuement à côté de la Vierge Marie et regardez-la qui attend son bébé, qui touche son ventre, qui invite Joseph à mettre sa main sur son ventre. C'est une joie pour elle. Il y a une espèce de joie pure. En plus, Marie est toute jeune. C'est une toute jeune fille. C'est cette joie pure de Marie qui est sans limite, qui est une exultation sans limite. Et puis vient le moment de la naissance. C'est une naissance, alors c'est une naissance miraculeuse, c'est une naissance étonnante, c'est une naissance pour nous qui est... Il y a quelque chose du mystère auquel on n'a pas accès, parce que c'est une naissance virginale. Marie est dispensée des douleurs de l'enfantement, Marie est dispensée de ces douleurs dont je parlerai tout à l'heure, qui sont les conséquences du péché. Marie met au monde son enfant dans une joie pure. Sans ombre ni trouble au visage, comme dit le psaume. L'enfantement, c'est... on n'a pas accès là, c'est le secret de la crèche, c'est le secret de la nuit de Noël. L'enfant vient, l'enfant est là. Comme la lumière traverse une vitre sans la briser, l'enfant est né sans quitter sa mère. C'est un mystère conservé et jalousement conservé dans l'Église. Mystère de la virginité de Marie avant, pendant et après la naissance de Jésus. Jésus n'a pas brisé sa mère en naissant. Et pourquoi, on m'a souvent posé la question, mais pourquoi c'est si important la virginité de Marie? Parce que la virginité de Marie, c'est son corps, son être tout entier qui est réservé à Dieu et Dieu ne brise pas. L'enfant Dieu ne brise pas sa mère en sortant d'elle. Il sort d'elle sans la quitter. Il y a quelque chose là. Il faudra beaucoup méditer quand on sera devant le calvaire. Il y a une violence de la mort de Jésus là qui est extraordinaire, qui est très impressionnante. Mais Marie qui porte son enfant, Marie qui porte, qui donne le sein à son enfant, Marie qui... C'est encore l'enfantement, ça. Elle se donne, c'est la chair de ma chair. Et puis elle peut dire, elle, c'est la chair de ma chair et qui n'est que ma chair. Quand on recevra l'Eucharistie, c'est la chair de Marie aussi qu'on mange. Hein. Parce que il est la chair de sa chair. Il y a quelque chose qui se transmet là dans l'Eucharistie. Marie est présente dans l'Eucharistie d'une manière très, très étonnante. Mais cette joie de Marie qui donne le sein, qui se donne tout entier, et Marie qui porte cet enfant, ce nouveau-né avec Joseph qui est là, qui la soutient, qui en même temps est à son école. La visite des bergers, tout ce qu'on a médité ces jours-ci dans le temps de Noël. Et puis la quatrième grande joie de Marie, l'épiphanie, les nations païennes qui viennent reconnaître, en entrant dans la maison, dit l'Évangile, ils découvrirent l'enfant et sa mère, et se prosternant à ses pieds, ils lui offrirent leur présent. Il y a Marie, petit à petit, vit ce mystère d'Israël qui est la lumière des nations. Réjouis-toi, Israël, la lumière est en toi. La lumière est venue jusqu'à toi. Et Marie est comme la petite fille d'Israël qui porte ce mystère. C'est impressionnant, la joie de Marie dans la visite des mages. Et qui suis-je? Son étonnement dans la visitation se poursuit encore à ce moment-là. On pourrait poursuivre évidemment la croissance de Jésus, Jésus qui grandit à Nazareth. On reconnaît la cinquième joie de Marie. Les sept joies de Marie, c'est un peu comme les cinq dizaines de chapelets. Ce sont des mystères qui ont été choisis, mais on pourrait en rajouter d'autres. Hein, ce sont des mystères qui ont été contemplés par nos pères dans la foi. Mais évidemment, ce sont des points proposés, mais on pourrait développer évidemment beaucoup. La joie de Marie qui retrouve son enfant au temple, quelle émotion pour elle, quelle émotion pure. Et de retrouver son enfant sans comprendre, on verra tout à l'heure dans les douleurs de Marie, sans comprendre ce que Jésus leur dit, mais la joie de Marie qui revient, qui retourne à Nazareth avec Joseph et l'enfant, qui leur est soumis et qui grandit en âge et en taille et en sagesse, qui apprend son métier avec son père. Marie a aimé de tout son cœur Joseph, elle a aimé de tout son cœur son époux. Quand elle dit à Jésus, regarde, ton père et moi, c'est Marie et Joseph sont profondément unis dans un amour humain, sans faille, dans un amour humain réel. On pourrait développer ça beaucoup, mais j'essaye de me tenir à mon sujet, mais c'est difficile. La fierté de Marie qui voit son enfant grandir. Il faudrait regarder Marie qui apprend à Jésus à prier. Quel mystère! Marie a appris à Jésus les mots des psaumes, les mots de la prière. Jésus probablement lui a appris dans un grand mystère. Marie a beaucoup appris de son fils qui prie, mais c'est Marie qui a transmis quand même la parole, l'écriture, la connaissance d'Israël. Jésus a, quand il a appris à parler, il a appris à parler, il ne savait pas parler de naissance. Quand il naît, il ne sait pas parler, il fait areux, areux. Et c'est Marie qui lui apprend à parler. Marie a appris à Dieu à parler. Non mais c'est dingue quand même. C'est pour ça que je dis toujours, ne faites pas taire les enfants à la messe, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé comme ça. Et puis, les deux dernières joies de Marie, mais évidemment, on fait des sauts, il faudrait regarder tous les mystères, mais on fait des sauts. Traditionnellement, les joies de Marie sont dans la résurrection et dans son assomption et son couronnement. Il y a une espèce de... Mais c'est toujours dans ce sens, et c'est vraiment le thème, le fil rouge de notre recherche, c'est Marie dans son travail d'enfantement. Marie qui, le travail d'enfantement, il est achevé pour elle quand elle est couronnée au ciel. En fait, c'est sa mission d'enfantement qui est couronnée au ciel. Elle est couronnée de ce travail qu'elle a accompli et qu'elle a offert au Seigneur, qu'elle a offert à Dieu. Mais le péché a fait que ce travail d'enfantement est douloureux. Alors, pour Marie, dans l'enfantement de Jésus, c'est un enfantement joyeux. Et pourtant, même pour Marie, la douleur est présente. La conséquence du péché, c'est la pénibilité du travail. Le travail est devenu pénible. Le travail est devenu douloureux. Tu gagneras, tu travailleras à la sueur de ton front. Et toi, dit Dieu à la femme, tu enfanteras dans la douleur. Tu enfanteras dans la souffrance. Il faut faire attention, hein, c'est pas une condamnation de Dieu. Eh bien, puisque tu as fait ça, paf, punition. Non, parce que tu t'es détourné de moi, parce que tu n'as pas voulu me faire confiance... La conséquence, c'est que désormais pour toi, le travail sera pénible. Désormais pour toi, le travail sera douloureux. Désormais pour toi, l'enfantement sera un travail pénible et qui sera source de souffrance. Mais Dieu se plaint de ça. Dieu ne se réjouit pas. Dieu n'est pas en train de dire, vous voyez, comme une punition, ben, puisque c'est ça, voilà ce qui va t'arriver. Mais non. Dieu n'est pas cynique. Dieu ne se réjouit pas de ce que le travail soit douloureux. Dieu ne se réjouit pas de ce que l'enfantement soit désormais une souffrance pour la femme. Et de même qu'une mère qui de temps en temps, est obligée de dire à son enfant, mais tu vois, puisque tu as fait ça, voilà ce qui va arriver. Mais c'est la conséquence de ce que tu as fait. Alors, il arrive quelquefois que la mère corrige son enfant, que Dieu le fera dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et même dans le Nouveau, parfois, il y a une correction positive de Dieu, mais qui est toujours une miséricorde pour pouvoir justement provoquer une correction, pour pouvoir provoquer un retournement. Alors, je voudrais lire justement... tout de suite ce texte de l'Apocalypse, parce qu'évidemment c'est un contraste total avec la naissance de Jésus à Bethléem. Voilà ce signe grandiose qui apparut au ciel, on est au chapitre 12 de l'Apocalypse, c'est une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête est surmontée d'un diadème. Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et l'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. C'est toujours très mystérieux, le langage apocalyptique. Hein. Mais c'est beau. Alors, on, traditionnellement, évidemment, dans l'interprétation de l'Écriture, on a vu dans cette femme la femme, mais on a vu aussi Marie qui enfante non pas l'enfant Jésus, puisque cet enfantement de Jésus est un enfantement sans douleur, dispensé des douleurs de l'enfantement, mais Marie, qui, mère de l'Église, qui enfante l'Église, et cet enfantement de l'Église, il est douloureux, parce qu'il se réalise à la croix, il se réalise à travers les souffrances de l'offrande de la croix, le sacrifice de la croix. Mais de ce sacrifice de la croix, Marie connaît déjà des douleurs qui, comme par anticipation, dans tout son parcours de jeune mère, de jeune épouse et mère, ce sont les sept douleurs de Marie, comme on les appelle souvent. Oui, les sept joies de Marie, les sept allégresses de Marie, les sept douleurs de Marie, c'est du domaine de la dévotion, c'est-à-dire c'est du domaine comme le chapelet, si vous voulez, comme le rosaire. Mais la dévotion dit quelque chose d'une compréhension profonde que nos pères dans la foi ont eu de cette... C'est le fruit de leur méditation sur la vie de Marie. Ça nous dit beaucoup. Et pareil, comme pour les joies, les douleurs, la dévotion nous rend attentifs à tel ou tel point, tel ou tel événement dans l'Évangile, mais on pourrait développer beaucoup et ce sont des points qui sont à relier pour faire peu à peu une ligne, pour faire une trajectoire, pour faire un... Vous voyez, les points ne sont là que pour souligner et soutenir la trajectoire, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder dans son ensemble. Les douleurs de Marie, il y aurait, je passe dessus, mais il y aurait déjà à méditer sur les douleurs de Marie au moment de la naissance de Jésus, le fait qu'il n'y a pas de place pour eux à l'hôtellerie, le fait qu'on va mettre au monde cet enfant dans des conditions de pauvreté, de dénuement extrême, après avoir déménagé de Nazareth alors que c'était vraiment pas le moment. Enfin, bref, toute la naissance de Jésus est entourée d'événements qui sont en soi difficiles, que Marie vit dans la foi et dans une totale confiance à Dieu, que Joseph vit lui aussi dans la foi et dans une totale confiance à Marie. Et, en fait, il regarde Marie et il vit tout ça dans la confiance parce qu'il voit que Marie ne perd jamais confiance. Mais il y a tout un tas d'aspects douloureux déjà là-dedans. La véritable première grande douleur arrive avec la prophétie de Siméon au moment de la présentation de Jésus au temple. Siméon dit à Marie, après avoir reçu l'enfant dans ses bras, « Cet enfant que tu présentes provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et toi d'ailleurs, une épée, un glaive, tu traverseras le cœur, tu transperceras l'âme. » Et Marie n'est pas du tout étonnée. Hein, elle sait bien que toute cette histoire dont elle est le cœur est une histoire tellement inouïe que cette histoire ne peut pas ne pas être marquée par toutes les douleurs d'Israël depuis le commencement. Cette histoire ne peut pas, si vraiment elle porte le Messie, ce qu'elle croit de tout son cœur, toute cette histoire ne peut pas ne pas être marquée au fer rouge par toutes les souffrances de l'humanité depuis le commencement, depuis la chute. Donc Marie n'est pas du tout étonnée parce que Siméon est en train de lui dire. Mais Marie reçoit cette prophétie comme une confirmation, en quelque sorte, que celui qu'elle porte, le Messie, qui doit être le salut de son peuple, est en même temps celui qui portera, mystérieusement, elle ne sait pas encore du tout comment, elle n'a pas les mots pour le dire, mais qui portera toutes les souffrances de l'humanité. Et du coup, comme une mère qui accompagnera les souffrances de son fils, elle sera elle-même profondément transpercée par ses souffrances. La première des grandes souffrances qu'elle a à vivre, je vais passer vite, mais c'est le massacre des innocents. Quelle injustice, quelle abomination, que son enfant béni, l'enfant Dieu, qui est la cause de ce massacre du tyran, et puis elle doit fuir en Égypte avec Joseph. Enfin, ce sont des... Et puis, la disparition de Jésus et cette incompréhension dans la réponse que Jésus donne à Marie à la question « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Toujours, il faut insister, le pourquoi de Marie, c'est comme le comment cela va-t-il se faire. Ce n'est pas un pourquoi qui demande des comptes à Dieu, c'est un pourquoi qui cherche à comprendre, qui cherche à entrer dans le mystère. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et voir comme ton père et moi nous avons cherché, et dans quelle angoisse nous avons cherché. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Non. Ils ne comprirent pas ce que Jésus leur disait. Et elle accepte de ne pas comprendre. Elle conservait toutes ces choses pour les méditer soigneusement dans son cœur. Non. Ça fait vraiment partie de ce travail d'enfantement. C'est-à-dire, elle sent bien qu'il faut que peu à peu, elle se détache de son enfant. Il faut bien que... Elle ne refuse pas du tout, d'ailleurs, mais elle regarde Dieu pour savoir comment elle doit faire, pour savoir de quelle manière elle doit offrir peu à peu. Elle a toujours offert celui qu'elle porte, elle n'en a jamais été propriétaire, mais elle sent bien que c'est quelque chose qui ne lui appartient pas, et c'est quelque chose, quelqu'un qui ne lui appartient pas, et qu'elle offre, mais en même temps elle en est responsable, elle en est la mère. On verra tout à l'heure, pour une mère... c'est mon enfant, et en même temps, c'est pas mon enfant. Il faut que je le donne, il faut que je le laisse aller, il faut que... Alors, on saute par-dessus toute la vie apostolique de Jésus, mais on pourrait s'arrêter à beaucoup de points de l'Évangile, mais on rejoint Jésus dans le portement de la croix, le chemin de la croix. C'est la grande douleur de Marie. D'ailleurs, l'Évangile note que Marie rencontre Jésus à ce moment-là. Jésus rencontre sa mère. C'est une des stations vraiment évangéliques du chemin de la croix. Il faudrait longuement regarder le regard entre Marie et Jésus à ce moment-là. La cinquième douleur de Marie, c'est Marie au calvaire. Marie connaît, dit Jean-Paul II, Marie connaît un total démenti des promesses de l'Annonciation. L'ange lui avait dit, il sera grand, il sera appelé fils de Dieu, on lui donnera le siège de David, son père, et son règne n'aura pas de fin, et en fait, de trône, c'est la croix, il est cloué, nu sur la croix. Et Marie connaît dans son cœur humain, c'est Jean-Paul II qui parle, dans l'encyclique sur la mère du Rédempteur, Marie connaît dans son cœur humain un total démenti des promesses de l'Annonciation. Comme elle est grande alors, comme elle est héroïque, la foi de celle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Oui, bienheureuse celle qui a cru. Ça fait partie du travail de l'enfantement, ça encore. Marie est mère. Souvent, je pense, et ça me paraît de plus en plus fort maintenant. Il me semble, si j'avais été Jésus, en tout cas sans avoir réfléchi plus loin... J'aurais dit à Marie, Marie, ça va être épouvantable là, ce qui va se passer à Jérusalem. Retourne à Nazareth, moi je vais ressusciter dans 3 jours. Quand j'aurai fait tout ce que j'ai à faire, je te rejoins, mais je veux pas que tu vois ça, ça va être terrible, ça va être épouvantable. Et Jésus n'a pas dit ça à sa mère, au contraire, il a besoin de sa mère. Et Marie est là pour enfanter Jésus qui s'offre et qui souffre. Et Marie, on peut dire que le travail de l'enfantement, et là, elle crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. C'est là, on rejoint l'Apocalypse, vraiment. Avec ce dragon qui cherche à dévorer l'enfant. Ah, si t'es Dieu, descends de la croix, et puis on croira. Voilà, le dragon qui est le tentateur, le déstabilisateur, le diable. Là, le travail de l'enfantement se fait vraiment douloureux. Et puis Marie, sixième douleur, Marie reçoit le cadavre de son fils, la Pietà, hein, Marie la mère, Marie la maman qui reçoit son fils mort dans ses bras. C'est une petite note, une petite parenthèse, mais qui me touche toujours beaucoup. Les scientifiques qui ont étudié de près le linceul de Turin ont reconnu tout contre la plaie du cœur, la tache de sang de la plaie du cœur. Les scientifiques, les grandes études qui ont été faites, reconnaissent les traces, la marque d'une main féminine. On en pense ce qu'on veut, hein, mais on imagine très bien Marie, mère, qui touche la plaie, qui est la plaie tellement significative, qui est tellement pleine de Et là aussi, le travail de l'enfantement, c'est la dernière offrande. Et c'est l'offrande qui est importante, parce que c'est l'offrande du sacrifice. Elle offre son fils au Père. Jésus, cadavre, se laisse offrir par sa mère. C'est l'offrande qui va se réaliser chaque jour à la messe, hein. Et c'est Marie, c'est l'Église avec Marie qui offre la victime. La victime, le sacrifice vivant, par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité de l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire. Je t'offre celui que tes mains nous ont, celui que ton amour nous a offert. C'est ça l'offrande du sacrifice eucharistique. Comme Marie autrefois avait présenté son enfant au temple, en recevant cette prophétie de Siméon, elle offre son fils. À l'état de victime, il a donné sa vie, il s'est donné en victime d'amour, et c'est Marie qui va présenter cette offrande. Ça fait partie du travail d'enfantement, ça. Et puis la toute dernière douleur, qui est une douleur peut-être la plus aiguë, mais en même temps une douleur, si j'ose dire, une douleur paisible de Marie. C'est pour ça que Marie sera vraiment un modèle. C'est Marie au tombeau, Marie pendant le temps du tombeau, Marie qui attend la résurrection, mais elle ne sait ni quand ni comment, mais elle attend dans la confiance, elle attend dans l'espérance, elle guette l'aurore. Vous savez, il y a un psaume qui dit ça. Éveille-toi ma gloire, éveille-toi harpe sitar, que j'éveille l'aurore. Marie éveille l'aurore par sa prière, elle guette ce moment de la résurrection, encore une fois sans du tout savoir, comme d'habitude pour elle, sans rien savoir du comment, sans rien savoir du quand, elle guette, elle veille et elle hâte l'heure. Et ça aussi c'est le travail de l'enfantement. Vous voyez, dans ce travail de l'enfantement de Marie, c'est déjà l'Église, et l'Église c'est le mystère de l'homme régénéré, c'est le mystère de l'homme réconcilié, c'est le mystère de l'homme rétabli dans la grâce, rétabli dans la vie. C'est la vie au-delà de la mort, c'est la mort vaincue. On n'y fait pas très attention, on passe souvent très très vite là-dessus, que Paul VI est proclamé Marie, mère de l'Église, au cœur du Concile de Vatican II. C'est très très grand, ça. Et finalement, le grand travail de l'enfantement de Marie, c'est aujourd'hui, l'enfantement de l'Église. L'enfantement de l'Église, c'est-à-dire l'enfantement de tous les enfants baptisés. L'enfantement de tous ceux qui peu à peu rejoignent ce corps du Christ. Et ça, c'est un enfantement qui est, avec toutes ces étapes de l'annonce, de l'attente, de la naissance, de la croissance, c'est le travail que l'Église fait avec elle, par elle, en elle. C'est le travail d'une paroisse. C'est le travail que nous accomplissons dans l'évangélisation, dans la mission. Oui, c'est un travail d'enfantement. Quand on fait ici une réunion de préparation de baptême pour les petits-enfants, c'est un travail d'enfantement qu'on fait. Est-ce que nous avons ce regard sur les personnes qui viennent présenter leur enfant pour le baptême, ou bien au catéchuménat avec les adultes? Est-ce que nous avons ce regard de Marie sur les personnes, sur ce mystère de croissance, ce mystère de naissance, ce mystère de mise au monde? C'est la réflexion de Jésus à Nicodème, à la question de Nicodème, mais comment est-ce que, vieux, on peut retourner dans le sein de sa mère, puisque Jésus lui disait, tu sais, il faut naître à nouveau. Est-ce que quand on est vieux, on peut retourner dans le sein de sa mère? Et Jésus lui dit, mais il faut naître de l'eau et de l'esprit, il faut renaître à nouveau. Et c'est cette naissance à nouveau qui se fait par Marie, en elle, dans l'Église. Tu es maître en Israël, dit Jésus à Nicodème, et tu ignores ces choses? Alors, je voudrais revenir sur ces étapes pour regarder le travail d'enfantement au sens tout à fait réel, concret du travail de la femme d'aujourd'hui comme hier et demain. Mais pour notre temps, évidemment, aujourd'hui, à l'aube du troisième millénaire, d'abord la joie. Alors on va à chaque étape, la joie et l'angoisse, la joie et la douleur, la joie de la conception. Oui, c'est une immense joie pour une maman, pour une femme, de concevoir un enfant, dans cette communion à l'époux. Il faudrait, évidemment, on développe ça, c'est peut-être pas le lieu de développer énormément, mais c'est une joie formidable. L'aurore de ce mystère de la vie, l'aurore de ce mystère d'enfantement, c'est la communion d'amour de l'époux à l'épouse. C'est dans cette union qui passe par l'union des corps et donc qui passe par le plaisir des corps et qui s'épanouit dans la joie spirituelle de la communion des cœurs. C'est une joie inouïe que cette communion d'amour qui fait que l'amour devient vivant dans le sein de la maman, que l'amour devient vie dans le sein de l'épouse. C'est un mystère incroyable que Dieu ait voulu que la femme, et pas l'homme, la femme porte la vie. L'amour est devenu vie. Quel mystère. Mais on a immédiatement en face de cette joie la souffrance, l'angoisse, la souffrance de celle qui ne conçoit pas, de celle à qui, comme on dit dans la prière, la vie semble se refuser. Celle qui, mystérieusement, n'est pas épousée humainement, celle qui vit cette douleur du célibat qu'elle n'a pas choisi, celle qui vit cette angoisse d'une conception non désirée, parce que ce n'était pas le moment, parce que ce n'était pas l'époux, parce que ce n'était pas quelque chose qui avait été espéré comme ça, maintenant. Il me semble que le travail de l'enfantement, la prière à Marie, Mère, la prière à Notre-Dame du Travail rassemble toute cette action de grâce pour celle qui porte la vie dans la joie de cette conception, mais rassemble aussi toutes celles pour qui ce point précisément est douloureux. Et on sait bien à quel point, parce que ça traverse notre paroisse, notre propre paroisse, ça traverse nos familles, ça traverse nos proches et nos tout proches. Oui, je considère que la prière dont la paroisse est dépositaire, en quelque sorte, dont la paroisse est responsable, reçoit cette immense joie et cette source d'action de grâce, et reçoit en même temps cette immense douleur et comme cette longue plainte de la femme d'aujourd'hui qui est cause de notre joie. Je vous offre la joie des femmes qui portent la vie. Soutenez les mamans qui sont dans le travail de l'enfantement. Soyez l'espérance de celles qui hésitent à garder la vie. On va y revenir. Consolez, encouragez celles à qui la vie semble se refuser. L'attente, le travail de l'enfantement est dans l'attente. L'attente aujourd'hui dans notre temps, dans notre monde, est devenue une attente joyeuse toujours. C'est toujours joyeux d'attendre. C'est toujours. Je parle souvent avec les femmes enceintes, avec les femmes surtout quand on est enceinte pour la première fois, qu'on porte la vie pour la première fois. On suit cette grossesse, on suit les développements de l'enfant, les premières fois qu'on le sent bouger, il a bougé. On entend son cœur, les premières échographies, ce sont des joies extraordinaires, ça. Mais qui sont toujours en parallèle aussi avec les grandes angoisses de l'attente d'aujourd'hui. La grossesse est tellement médicalisée, surmédicalisée aujourd'hui qu'elle devient finalement presque comme une maladie à certains moments. elle est, justement, les échographies ont souvent augmenté, ou les examens augmentent parfois, ou suscitent ou augmentent l'angoisse d'un enfant qui supposément pourrait porter un handicap, une infirmité ou quelque chose qui est une source d'angoisse terrible. La grossesse se transforme parfois en angoisse effrayante pour certaines femmes, certaines familles. Beaucoup, beaucoup accompagner ces angoisses-là, beaucoup. Et puis ça dure 9 mois quand même. Donc c'est une angoisse qui se prolonge, qui est longue, c'est une attente quelquefois qui est difficile, douloureuse, quand on vit dans des conditions très précaires, très, très... Des femmes qui vivent cette attente avec un époux présent, qui soutient, mais des femmes qui vivent cette attente sans personne, qui vivent ça seules, dans des conditions quelquefois terribles. Au point que... Parfois, on en vient à refuser la vie ou à supprimer la vie. Jamais, 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 jamais de jugement, mais une immense compassion. Une immense compassion, une écoute profonde, une attention. C'est que, oui, l'avortement est une chose terrible, une chose affreuse, c'est une plaie béante dans notre humanité d'aujourd'hui. C'est millions de vies qui sont supprimées. C'est une plaie béante de la vie qu'on refuse et que la vie la plus fragile qu'on refuse et qu'on supprime. Mais quelle souffrance et quelle injustice la plupart du temps qui cause ces souffrances-là. Quelle injustice qui a poussé des femmes ou des époux à refuser cette vie. Chaque circonstance est unique, c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger en général, mais il faut trouver des solutions, il faut trouver des réponses, il faut trouver une attention. Comme on ne pourra pas traiter les questions de l'euthanasie sans s'occuper réellement des personnes âgées, de la même manière, on ne peut pas dénoncer l'avortement sans concrètement s'occuper des personnes qui souffrent ces difficultés, ces souffrances. Mère Teresa disait aux femmes tentées par l'avortement, mais ne les tuez pas, donnez-les-moi, mais ne les tuez pas. Oui, encore faut-il avoir des structures, encore faut-il avoir des personnes capables de les recevoir, ces enfants-là. Travail de l'enfantement. Comment se fait-il aujourd'hui que ces moments-là, qui sont des moments de pure joie de la vie naissante, deviennent quelquefois des moments d'angoisse noire? La paroisse, parce que c'est une paroisse de l'Église catholique, ne peut pas ne pas être attentive à tout ça. Mais la paroisse, parce qu'elle s'appelle Notre-Dame du Travail, doit être aux avant-postes de ceux qui accueillent, je ne dis pas qu'on a des solutions pour tout ça, mais qui accueillent cette prière, qui portent cette prière, qui reçoivent cette prière. La naissance, il faudrait passer les joies et les angoisses de la naissance, mais... Bon, en poursuivant tout ce que j'ai dit, vous voyez, mais on a l'impression que ce contraste est souvent, il m'arrive de dire aux jeunes époux, aux jeunes parents, que votre joie, qui est légitime, qui est réellement légitime, elle doit être pure, votre joie, mais que votre joie ne soit jamais insolente, que votre joie ne soit jamais... ignorante de la douleur du monde. Vous voyez, quand ici, c'est un peu une marque de fabrique, on parle de la grave allégresse. Dès que l'allégresse oublie la souffrance du monde, elle devient une exubérance qui devient une insulte au monde. Et chaque fois que la gravité d'une souffrance oublie la résurrection et la victoire, donc dans l'espérance du ressuscité, elle devient angoisse et elle nous conduit à la mort. Il faut tenir les deux bouts. Et il me semble que le travail de l'enfantement est un des lieux, peut-être le premier lieu, où se fait ce mariage étonnant entre la douleur et la joie. C'est tellement, C'est tellement lié dans notre monde aujourd'hui, c'est tellement lié, ces deux éléments-là sont tellement liés dans notre humanité. Et puis, le travail de l'enfantement se poursuit dans la croissance de l'enfant, l'enfant qui grandit, l'enfant qui à la fois fait la joie de ses parents, la joie de sa maman, mais l'enfant qui pose des problèmes, l'enfant qui... à l'école, il y a celui qui fait la joie, mais aussi celui qui fait l'angoisse de sa mère, Et puis un jour, il faudra qu'il quitte la maison, et il faudra on espère qu'il va se marier, on espère qu'il aura une belle vie, mais c'est en même temps une angoisse pour les mères. Enfin bref, vous voyez, on peut poursuivre ce chemin jusque... Et en suivant, c'est pour ça que j'ai longuement regardé Marie avec Jésus et Marie par rapport à l'Église, parce qu'on peut rapporter ces questions-là pour toutes les femmes d'aujourd'hui par rapport dans la lumière de cette contemplation. C'est vrai que le travail de l'enfantement, je parle souvent avec les fiancés qui préparent leur mariage pour eux. Évidemment, c'est la question des belles-mères. Hein, c'est toujours difficile d'être belle-mère parce que mon fils va aller entre les mains d'une autre, entre les bras d'une autre. Et même quand la belle-mère est sainte, ça reste une belle-mère. C'est terrible. Très sainte qu'elle est, c'est une souffrance pour elle parce qu'il faut qu'elle meure à sa mission de mère. C'est difficile, c'est douloureux, c'est mystérieux. Mais tout ça, ces douleurs-là, c'est à cause du péché. Hein. Pas le péché forcément personnel, mais le péché de l'humanité. Le péché de l'humanité a semé un immense foutoir dans tout ça, un immense désordre. Et le désordre est toujours source d'angoisse, le désordre est toujours source de mort, le désordre est toujours source de peine. Parfois, ce travail d'enfantement ira à côté de Marie, j'espère, parce que c'est là qu'on trouve la consolation, ira jusqu'à la mort d'un enfant. Quelle épreuve pour une mère de voir mourir son enfant. Tous ceux qui ont approché de près, moi ça ne m'est pas arrivé évidemment, mais ça m'est arrivé souvent d'approcher une mère qui perd un enfant. Une mère dont un enfant meurt, quelquefois meurt dans son sein, quelquefois meurt enfant, quelquefois meurt déjà à l'âge adulte, mais c'est toujours une épreuve. C'est la chair de ma chair qui il y a quelque chose qui est profondément violent dans cette réalité. La prière à notre âme du travail doit rassembler ça, doit porter tout ça. Vous savez, en disant tout ça, j'ai à l'esprit tant et tant et tant d'intentions de prière qui sont inscrites dans le cahier qui est au pied de notre âme du travail là-haut. Et c'est tous les jours qu'il y a des intentions d'une mère pour son enfant. Une mère qui est inquiète, ou une mère qui rend grâce, ou une mère. Et tout est mêlé, toujours. Alors, dans les quelques minutes qui restent, un regard pour ouvrir, un regard pour élargir la méditation, pour ouvrir des portes. Il me semble que, mais là je vous renvoie, enfin je vous prends un témoin, parce que c'est vous qui allez poursuivre ça, ou qui allez m'aider à le faire. Et puis ce sera une introduction pour les conférences qui vont venir ensuite. Il me semble que dans tout travail, il y a une certaine phase de conception. Il faut concevoir, il faut préparer. On se prépare et puis on conçoit. Alors, il faudrait voir dans quelle mesure, justement, ce travail de conception... Est-ce que le travail est plus humain quand il y a un travail de conception plus précis ? Est-ce que quand le travail est très... Quand le travail ne conçoit rien, c'est-à-dire un travail très répétitif, par exemple, un travail très, très machinal, un travail très mécanique, où il n'y a pas ce travail de conception, c'est simplement un travail d'exécution. Il y a quelque chose qui manque dans le travail. Il y a quelque chose qui... Il manque un don de la personne, il manque une participation de la personne. Mais le travail le plus humble peut se faire comme pure exécution, où finalement le travailleur ou celui qui travaille est pur exécutant, ou bien le travail est confié comme une tâche à accomplir, mais elle est accomplie comme quelque chose que je donne, que je... Vous voyez, notre âme du travail qui nous apprend à offrir. Je fais le travail en donnant quelque chose de neuf, en mettant un amour qui produit la vie, qui donne la vie. Que produit, c'est affreux. Il y a un travail qui met au monde quelque chose de nouveau. J'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus. Je n'ai pas du tout fait le tour de la question, mais j'ouvre une porte. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Peut-être justement dans la manière dont on confie un travail à quelqu'un, si c'est travail de pure exécution, j'ai peur qu'il y a quelque chose de déshumanisant dans la chose. Si au contraire on suscite dans la personne, soit soi-même, soit à la personne à qui on confie un travail, on suscite une part de, même minime, mais une petite part d'invention, de conception, il faut laisser une certaine latitude dans la manière de faire, je sais pas, enfin, et il me semble que ça humanise le travail. Dans le travail, il y a vraiment une part de cette attente. Je voudrais qu'on essaye de comprendre et de chercher ce qui, dans le travail, est cette dimension de l'attente, de la patience. Le travail exige une lente maturation. Le travail, c'est... Je suis très gêné aujourd'hui par tout ce qui est de la tentation de l'instant, de la tentation du temps réel. Vous voyez, une tentation permanente du temps réel. Nos réseaux sociaux, nos contraintes informatiques aujourd'hui font que tout doit être dans l'immédiat. Il n'y a plus aucun délai possible. Or, le travail demande un délai. Tout travail demande un délai. Tout travail demande du temps. On travaille dans le temps. On travaille et tout travail demande une certaine durée. Et ça aussi, je pense que le travail s'humanise s'il est dans le temps. Et cette espèce de tyrannie du rendement, cette tyrannie du tout de suite, il faut que ça produise tout de suite, sinon on jette, ça déshumanise le travail. Et je pense que Marie, dans son attente, Marie, dans cette patience qu'elle nous apprend, il y a une hâte, parce qu'il y a quelque chose qui grandit, mais qui grandit dans le temps. Là encore, j'ai pas fait le tour complet, mais j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose à chercher dans ce sens-là. La naissance... Qu'est-ce que ça veut dire pour le travail? Alors évidemment, c'est assez facile pour un artiste qui met, qui enfin, vous voyez, j'ai créé mon entreprise, j'ai achevé une œuvre, je mets au monde. Vous savez, de temps en temps, il y a des gens qui disent ça, c'est mon bébé, et c'est un robot, le bébé. mais il y a une certaine mise au monde, il y a une certaine, il y a un travail qui atteint la maturité. Et c'est une joie. C'est une joie en même temps qu'une angoisse. C'est ce qui va marcher, mon robot. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je pense que dans le travail, le travail doit pouvoir être mesuré, doit être visible. Notre travail a certainement quelque chose à nous apprendre dans ce domaine. Et dans la poursuite du travail, le travail de l'enfantement se poursuit après la naissance pour la maman. Elle suit, elle éduque, elle fait grandir. À quoi ça correspond dans ma manière de travailler? Il y a une progression, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui croît. Je ne suis plus le même aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Il y a une évolution dans le travail, il y a une évolution dans la manière de... Et puis jusqu'à la mort, c'est-à-dire l'offrande, il faudrait développer ça. Je l'évoque, mais peut-être un travail qui meurt, une entreprise que je suis obligé de fermer, un travail qui s'achève. Peut-être, on le verra dans une autre conférence, au soir de la vie, quand j'ai achevé ma vie professionnelle, il y a une certaine mort. J'ouvre des portes, je pose des questions, là. Je suis... mais j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Et j'ai l'intuition que méditer sur le travail de l'enfantement à l'école de la Vierge Marie nous dit quelque chose aussi du travail dans toutes ses étapes, dans tout son développement, dans tout son épanouissement. Je vous propose de redire, et puis nous dirons, je vous laisserai poser quelques questions si vous voulez, si j'arrive à y répondre, je ne suis pas sûr hein, de pouvoir le faire, mais je voudrais quand même qu'on puisse poser quelques questions si vous voulez. Et puis, en achevant, avant d'aller à l'adoration, pour ceux qui peuvent prolonger de quelques minutes devant le Saint-Sacrement, nous dirons la prière à notre âme du travail. Mais je vous propose, avant de laisser les questions se poser, redire ce petit paragraphe du premier jour, comme nous l'avons dit en entrant. Notre-Dame du Travail, je vous offre et vous consacre mes tâches quotidiennes et celles de tous les hommes. Par votre oui, vous avez accueilli en vous, sans réserve, celui qui est la vie. Cause de notre joie, je vous offre la joie des femmes qui portent la vie. Soutenez les mamans qui sont dans le travail de l'enfantement. Accompagnez avec tendresse celles qui vivent l'attente dans l'anxiété. Soyez l'espérance de celles qui hésitent à garder la vie fragile qui leur est confiée. Consolez et encouragez celles à qui la vie semble se refuser. Donnez force et courage à ceux qui se consacrent au service de la vie, de son commencement à son terme naturel. Notre-Dame du Travail, priez pour nous.
Par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de la Vierge Marie, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et tous les vôtres, et il demeure à jamais.
Amen. Amen.